excusez-moi, je pensais en vous écoutant aux essais de Matthew Crawford sur l'éloge du carburateur, l'essai sur la valeur du travail et du contact, qui justement travaille beaucoup sur toutes les notions de temps, de rationalisation, et qui pose la question finale, à quoi ça sert, qui est-ce qui en récolte les fruits. Je voulais savoir si à votre avis il y avait une spécificité, puisque Crawford est américain, une spécificité de la poste française.
Alors, c'est pas évident à dire parce que j'ai pas regardé systématiquement ce qui se fait ailleurs. Ce que je sais, c'est que l'usage d'un algorithme pour définir le périmètre des tournées, c'est pas du tout une spécificité française. On le retrouve en Belgique, il y a eu d'ailleurs des conflits sociaux très importants au début des années 2000 quand ils ont implanté le logiciel qui est aujourd'hui utilisé à la Poste. Ça existe au Brésil, ça existe au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse. Ça n'existe pas aux États-Unis, assez curieusement. Mais ce que je dis là est basé uniquement sur des recherches documentaires, donc je peux pas, je suis pas allé.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un vélo qui est accroché à la grille?
Oui.
Oui.
Je pense que c'est un postier qui l'a oublié.
Donc, enfin, j'ai pas fait d'enquête, et j'ai pas trouvé d'enquête équivalente à la mienne, enfin, parce qu'il y a plein d'enquêtes sur la Poste, mais on peut le prendre par plein de bouts différents. Parce que dire on utilise un logiciel de définition de périmètre détourné, ça ne dit pas forcément quel usage en est fait sur le terrain. Est-ce qu'on décide que la durée attribuée à telle ou telle tournée par le logiciel vaut pour solde de tout compte et qu'il est impossible d'en discuter, ou est-ce que c'est une base de départ à une négociation, sachant qu'il faut bien trouver un référent commun à un moment donné, ça pourrait en être un, mais qu'il n'est pas dit que ça doive enfermer la discussion. C'est pas parce qu'on a réussi à compter des trucs qu'on a vraiment bien compris ce qui se passe. En même temps, ça peut fournir une base de discussion. Donc ce que je sais, c'est que le logiciel est utilisé ailleurs. Est-ce qu'il est utilisé de manière aussi taylorienne pour couper court à tout le débat? Je ne sais pas. Et en tout cas, aux États-Unis, c'est encore énormément basé, d'après les documents que j'ai trouvés, sur du chronométrage, et ce sont des processus, des réorganisations, des raccourcissements ou rallongements de tournées sont des processus extrêmement longs et qui sont faits sous contrôle syndical. Et donc j'ai trouvé comme ça des guides de 200 pages écrits par le syndicat pour ses militants, pour savoir quoi regarder techniquement sur le contrôle syndical des différentes opérations qui mènent au chronométrage des tournées. Donc on a quand même encore des différences de pratique d'un pays à l'autre.
Il y a une question. Peut-être juste pour compléter une chose, tu abordes aussi, enfin, tutoyer cette idée de first class man aussi, où finalement la cadence est calculée, pas simplement sur une moyenne, mais en tout cas sur la personne qui est le meilleur rendement. Enfin, ça, c'est dans ton dialogue imaginaire avec. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce dialogue imaginaire avec Frédéric Taylor. Donc, ça, c'est repris aussi un petit peu, cette idée de se caler sur les meilleures performances et non pas de juger autour d'une moyenne.
On ne peut pas le dire. C'est-à-dire que, il y a effectivement Taylor a un créneau, une option méthodologique qui est très claire, qui est de dire que la cadence qui est la cadence scientifique n'est pas la cadence, par exemple, obtenue par la moyenne des chronométrages qui a été fait, mais c'est la cadence du first class man, donc l'homme de premier ordre, celui qui va le plus vite, en gros. Et ça, c'est la cadence scientifique qui doit être tenue par tous les autres. La Poste, du fait qu'elle a perdu ses documents, on sait les cadences qu'elle a fabriquées, mais on ne sait pas comment elle les a fabriquées. Donc, combien de chronométrages il y a eu derrière? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle a retenu les plus rapides, les plus lents, ceux du milieu? Est-ce qu'elle a fait une moyenne? Je ne peux pas répondre. D'accord. Et visiblement, plus personne ne peut répondre. Alors, à ceci près que ce que je raconte là vaut pour la période 2015-2020, puisque la Poste a refait des cadences entre 2018 et 2020, et toutes les réorganisations subissent les factrices et les facteurs depuis le début de l'année 2021 sont faites avec ces nouvelles cadences. Donc l'argument de ça a été perdu, n'est plus possible. En revanche, la logique taylorienne qui préside à tout ça, c'est-à-dire que ça a été fait complètement en chambre par des ingénieurs avec un refus, puisque la demande a été faite, un refus opposé à un droit de regard, simplement à un droit d'information des organisations syndicales ou des représentants du personnel, fait que la logique taylorienne est complètement gardée. Mais d'un point de vue, cette fois, on devrait avoir la réponse à cette question, mais je ne l'ai pas. Alors, le peu que j'en sais, c'est que j'ai l'impression que c'est la moyenne qui a été retenue, la moyenne des observations. Mais encore une fois, après, il faut savoir quelles observations faites, comment. Enfin, il y a une partie, c'est des chronométrages. Il y a une partie, c'est pour les vitesses de déplacement des facteurs. Par exemple, c'est de la géolocalisation. Donc, c'est du chronométrage à partir d'une géolocalisation des facteurs. Donc, il n'y a même plus un chronométreur derrière. Enfin, je dis pas que ce serait mieux. Mais et sur ces aspects-là, il semblerait qu'ils aient retenu la moyenne. Il reste que choisir la moyenne ou autre chose... Ça n'est pas une décision scientifique, ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours une décision de patronale de dire, bah voilà la bonne prescription en fonction de l'éventail des rythmes qu'on a recueillis.
Oui, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser aux nouvelles images que la Poste a voulu faire passer vers les médias et qu'elle a mis en place notamment, qui sont ces services aux personnes âgées et isolées, qui eux ne sont pas comptables leur temps, puisque leur temps est destiné à fréquenter les personnes âgées et leur apporter un lien social. Comment ces nouveaux services ont été vécus par ces postiers performants ?
6 minutes. C'est 6 minutes pour s'occuper d'une... Voilà. Alors, au départ, il parlait d'un quart d'heure, puis après 6 minutes. Donc, les services dont il est question, c'est effectivement... Donc, il y avait au départ un truc qui s'appelait Coesio, dont les clients devaient être les collectivités locales, donc qui devaient amener les facteurs à aller voir des personnes âgées, plus ou moins, ou supposés isolés, pour on ne sait pas trop quoi. Mais c'est un peu qui pose problème aux factrices et aux facteurs. Ce marché-là, ce n'est pas du tout développé. Donc après, ils ont développé Veiller sur mes parents, donc qui est la même offre, mais offerte à des particuliers qui voudraient du coup avoir un facteur. Et donc, là, vous avez une facturation en fonction de est-ce qu'il y va une fois par semaine, deux fois par semaine ou tous les jours. C'est diversement apprécié par les facteurs. Il y a les facteurs ruraux, pour caricaturer, mais la partition est surtout là. Les factrices et les facteurs ruraux sont souvent assez choqués de cette marchandisation d'un lien social qu'ils ont l'impression de déjà mettre en œuvre. Pendant que des facteurs urbains, qui en réalité... Moi, sur ma tournée, donc j'étais dans une zone très urbaine, j'avais, une fois la réorganisation faite, 1500 destinataires, c'est-à-dire boîte aux lettres. Donc, si on considère qu'il y a 2,5 personnes par ménage, ça fait plus de 3000 personnes sur ma tournée. Donc, je ne vais pas connaître tous les vieux de ma tournée, clairement. Ce lien social était déjà moins présent. Et donc là, les facteurs ont plutôt une espèce de crainte vis-à-vis des responsabilités qui leur incombent. Qu'est-ce que ça veut dire aller voir la personne? Quel est le niveau de responsabilité? Qu'est-ce qu'on doit faire si on s'aperçoit qu'elle ne va pas bien, par exemple? Je ne sais pas, qu'elle est par terre, tombée, voilà. Quel est le niveau de responsabilité? Qu'est-ce qu'on doit être fait dans la mesure où les factrices et les facteurs, en fait, ne sont pas formés à ce qu'ils sont supposés devoir faire? Ça, c'est les questions qui se posent. Et après, il y a tout un discours... un petit peu convenu sur le fait que c'est des choses qu'on faisait déjà, c'est dégueulasse que la Poste les vende. Je dis un petit peu convenu parce que du fait que, et ça se comprend aussi, les facteurs n'avaient pas de rôle systématique vis-à-vis de ça, je pense que c'est rare les facteurs qui faisaient systématiquement attention à toutes les personnes âgées de leur tournée. C'est aussi lié à des affinités, c'est bien compréhensible. Et donc, il pouvait y avoir des personnes âgées qui passaient sous le radar. Et la question qui se pose, par contre, et ça, ça vaut aussi bien pour les facteurs urbains que les facteurs ruraux, ils se posent tous la question, c'est comment ça rentre dans la charge de travail, puisque donc la Poste a fixé ça à 6 minutes. La prestation, ça dure 6 minutes, on doit rester 6 minutes chez la personne. On ne sait pas comment ça a été mesuré. Quand on tombe sur des personnes âgées un peu mutiques, c'est tenable. Et quand on tombe sur des bavards, soit on est impoli, soit on va rallonger sa journée. Et ça c'est typiquement une activité qui est assez peu modélisable a priori, parce que le temps que ça va durer, c'est quand même extrêmement variable. Et si vous avez un ou deux veillées sur mes parents dans votre tournée, si vous avez deux bavards, ça vous fait une belle jambe que la moyenne elle soit calculée à 6 minutes, parce que vous avez deux bavards. Donc ça, c'est comme ça que c'est la question que se posent beaucoup de facteurs. que se posent les facteurs concernés, parce que ce service-là non plus n'a pas un succès énorme, et donc y a beaucoup de facteurs qui n'ont jamais eu de service veillé sur mes parents. La Poste met effectivement beaucoup en avant dans ses plans stratégiques l'idée que ce qui va remplacer le relais de croissance, qui va compenser la baisse du courrier, alors c'est d'une part le colis, mais ça vaut pour les facteurs ruraux, parce qu'ils sont en voiture, donc ils distribuent les colis en même temps que les lettres. Pour les facteurs urbains, donc ils distribuent que les lettres et puis les tout petits colis, toutes les cochonneries qu'on achète sur internet qui sont pas très gros, mais le reste c'est distribué par des agences colis poste distinctes. Donc c'est d'un côté les colis, puis après tout ce qu'ils appellent les nouveaux services qui sont pas bien clairs. Le plus emblématique c'était vraiment celui-là, mais ça peut être aussi, moi le seul nouveau service que j'étais amené à faire, c'était vérifier l'identité d'une personne et prendre une photo de sa carte d'identité pour lui fabriquer son identité numérique La Poste, qui lui permettra à terme d'envoyer des recommandés entièrement numériques et donc de réduire la charge de travail, enfin de réduire le volume de recommandés papier distribués par les facteurs. Donc si c'est un relais de croissance sur le digital, de toute façon ça va avoir un impact là très clair aussi sur le volume d'activité physique des facteurs.
Il y a une question d'Olivier derrière.
Oui, bonsoir. Je vais tâcher de me plier à la cadence standard d'une question. J'avais une question très simple à vous poser. C'était pourquoi La Poste ? C'est pourquoi en particulier le travail des facteurs ? Pourquoi avoir choisi ce terrain, cet objet ? Quelles étaient finalement vos attentes, vos préconceptions de sociologue en choisissant ce terrain d'enquête? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a eu des décalages entre ce que vous espérez, ce que vous pensiez trouver dans ce terrain d'enquête et ce que vous avez effectivement trouvé? Voilà.
Alors, je disais, moi, mon meilleur informateur de La Poste jusqu'en 2015, c'était Danny Boone. Donc, autant dire que j'en avais une idée et j'avais même pas encore vu Jour de fête de Jacques Tati, que j'ai regardé vraiment pour raisons professionnelles et pour écrire ce livre. Donc, je n'avais pas du tout une idée claire. Mon activité, Godefroy disait que j'étais enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. J'ai été enseignant-chercheur à l'Université Paris 8. Enfin, je peux y retourner si je veux, je suis en disponibilité. Et actuellement, et depuis 2014, je fais de l'expertise pour les représentants du personnel sur les conditions de travail. Donc ça, c'est un droit qui est reconnu par le Code du travail, qui a été un peu raboté au moment de la suppression des CHSCT, mais qui existe encore. Les représentants du personnel, qui par ailleurs peuvent être syndicalistes, mais ce n'est pas obligé. C'est donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui les comités socio-économiques et auparavant les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, pouvaient, dans certains cas précis, notamment à l'aube d'une réorganisation, demander une expertise d'un cabinet extérieur qui essayait de comprendre l'activité, de comprendre le projet, de faire le lien entre les deux pour voir l'impact que ça aurait sur les conditions de travail. Et donc, moi, j'ai intégré ce cabinet, et puis après, on est tributaire des demandes qui nous sont faites et des secteurs qui font appel à nous. Donc moi, je ne me suis pas dirigé vers La Poste. C'est plus La Poste qui s'est dirigée vers moi. Alors, j'ai connu d'autres secteurs parallèlement. Mais j'ai été particulièrement sidéré par La Poste, en fait, parce que j'en avais une image tout à fait folklorique. Donc, je n'ai pas vu ailleurs, même dans des entreprises industrielles, une application aussi brutale et d'une certaine manière arrogante du taylorisme, c'est-à-dire d'imposer une prescription qui est pensée comme une vérité scientifique. Partout ailleurs, il y a des batailles sur le rythme de travail, et des employeurs qui cherchent plutôt à ce que les salariés aillent plus vite et des salariés qui essayent plutôt de freiner le mouvement. Mais le fait que dans cette bataille soit assénée une prescription écrite à la seconde près qui repose sur un algorithme, alors ça existe ailleurs, hein, maintenant on le voit bien, mais qui repose sur un algorithme décidé en chambre pour s'apercevoir finalement qu'on ne sait même plus comment il a été décidé du côté de ceux qui le manipulent, moi j'ai été très frappé par ça et par l'absence de, alors le terme est un peu galvaudé, j'en suis pas fan, mais par l'absence de dialogue social localement, puisque nous on intervenait au niveau d'établissement avec des directeurs d'établissement qui étaient incapables de nous expliquer de quoi était faite leur prescription. Donc ils devaient l'imposer, Ils devaient convaincre les facteurs que c'était juste et scientifique, et eux-mêmes n'avaient aucune idée de... Donc, évidemment, la discussion tournait court, n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait dedans, mais ça devait quand même s'imposer. Et donc, parmi les différents secteurs auxquels j'ai été confronté à travers l'expertise pour les CHSCT, j'avoue que c'est celui-là et ce à l'intérieur de la Poste, parce que j'en ai fait aussi dans les bureaux de poste ou dans les centres financiers de la Banque Postale, c'est vraiment ce métier-là qui a retenu mon attention. Parce qu'il y a, voilà, il y a une dimension de brutalité qui m'a un peu sidéré. Et parce que du coup, d'un point de vue intellectuel et politique, je trouvais qu'il y avait quelque chose à tirer autour de la question de l'élargissement de la délibération au travail. Donc un peu dans la veine, je le disais, des travaux de Thomas Coutreau, Alexis Cuquier, qui réfléchissent directement à la démocratisation au travail. Dans la veine aussi de ce qu'on, dans l'expertise CHSCT, on est forcément amené à lire de la psychologie du travail, de la psychodynamique du travail, donc des Yves Clos, Christophe Dejour, pour celles et ceux qui connaissent, qui posent aussi ces questions de manière très intéressante, je trouve, de délibération dans le travail, mais qui ne se posent pas forcément la question des échelles. À quelle échelle est pertinente pour délibérer, quelle échelle a préséance sur d'autres, parce que quand on parle de délibération démocratique, au moment, il y a des échelles, il y a des instances, il y en a, sur certains sujets il y a une échelle qui prime sur l'autre, sur d'autres sujets peut-être pas, donc ça n'est pas du tout abordé dans cette psychologie et psychodynamique du travail. Ça l'est davantage chez Coutreau, chez Isabelle Ferreras, chez Alexis Cuquier, mais sur un mode un peu juridique, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on voilà, on transplante un système représentatif ou un système de démocratie directe et on réfléchit à des procédures de délibération, mais sur un mode un peu juridique à l'intérieur de l'entreprise. Et j'ai l'impression que ce que j'ajoute, donc d'un côté je m'inscris complètement là-dedans, je revendique et c'est pas très original, peut-être ce que j'ajoute, c'est de mélanger ça à une sociologie des sciences et des techniques. Et là il y a aussi tout un courant extrêmement intéressant autour de Latour, Calon, Lacoum, Barthes, etc., sur la question de la démocratisation de la science ou de la possibilité d'avoir une démocratie technique, mais qui s'est rarement aventuré dans le champ du travail salarié. Donc voilà, je me suis dit, tiens, il y a quand même un beau terrain pour faire une connexion entre ces différents champs que je trouve intellectuellement stimulant et qui, jusque-là, n'avait pas, mon point de vue, tellement dialogué.
C'est possible aussi.
J'ai été facteur du coup entre 1999 et 2017, donc quelques éléments en plus. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important, parce qu'effectivement le regard que la majorité des gens portent sur le métier de facteur est un regard plutôt sympathique. Avant on disait petit travail tranquille sur le PTT. Et on a l'impression, bon an mal an, que c'est un travail plutôt sympa. Et du coup, le témoignage que je voudrais apporter, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte de la violence pour les corps et les esprits que représente du coup ce mode d'organisation et ces réorganisations incessantes qui fonctionnent à peu près tous les deux ans en moyenne depuis... Moi, j'étais à Rondelet depuis 2005, c'est un bureau qui est réorganisé tous les deux ans. Et pour vous donner deux, trois exemples pour essayer de l'imager... voilà, vous vous retrouvez dans une zone géographique dans laquelle il y a une croissance démographique, c'est-à-dire que même si vous avez une baisse de trafic du courrier qui est présentée par la Poste comme étant, je sais pas, selon les années, de 7%, 8%, 11%, vous avez dans le même temps aussi une ville qui croît de façon très importante et où du coup, sur un certain nombre de secteurs géographiques de la ville, la baisse de trafic du courrier est en partie... ou totalement compensé par une augmentation démographique. C'est-à-dire, on appelle ça des raccordements postaux, notamment, c'est-à-dire des zones où, vous voyez par exemple toute la zone Port-Marianne où se construit un immeuble toutes les trois semaines. Quand il y a un immeuble, il y a des boîtes aux lettres, il y a des habitants, il y a des boîtes aux lettres, et ce nouvel immeuble est attribué à une tournée. On appelle ça du raccordement postal. Et moi j'ai vu, hein, voilà, donc, d'une réorganisation à l'autre, c'est-à-dire sur une durée de deux ans où la Poste affirme que sur deux ans il y a eu, je ne sais pas, 18% de baisse de trafic, j'ai vu des collègues dont les tournées, avec le même logiciel, étaient moulinées de 6h30 ou 6h40, parce que à chaque réorganisation on change aussi la durée hebdomadaire ou la durée journalière de travail, qui d'un coup passaient de 6h40 à 4h20. Il faut bien se rendre compte de la violence que ça procure pour les individus, de se dire, moi je fais ma tournée dans les temps, je ne perds pas de temps, je ne sonne déjà pas chez les gens pour me le recommander parce qu'à la dernière réorgue, j'ai pété un câble et j'y arrivais déjà pas. Donc je prends tous les biais possibles, individuels, personnels, pour essayer de finir ma tournée dans les temps, quitte à saloper un peu le travail, parce que c'est une réalité des agences qui donne une perte de confiance dans son travail, dans son métier. Voilà, c'est usant et c'est abîmant, je dirais, pour les individus. En plus de ça, d'un coup, on vous dit, il vous manque 2h30. Voilà. Donc 2h30, il faut vous imaginer, c'est, je sais pas, sur un quartier comme ici, c'est toute la rue de la Cavalerie qui est devant nous, plus la place qui est là, plus deux, trois rues périphériques. C'est juste énorme. Moi, ouais, sur les réorgs, j'ai vu au moment du rendu des diagnostics, c'est-à-dire le moment où on vous annonce que votre tournée fait telle durée et que dans le cadre de la réorganisation, on va vous rajouter du coup le périmètre que je viens de définir, j'ai vu des collègues craquer, pleurer, partir chez eux en pleurs, revenir le lendemain, mais dans des états déplorables. Et je reviens sur cette notion, alors j'ai oublié le mot, de prendre le calibre de celui ou celle qui va le plus vite. C'est que l'expérience que j'ai vécue à la Poste, c'est qu'à chaque réorganisation, tous les deux ans, on voyait disparaître des collègues. Et ça, c'est un truc qui m'a profondément marqué dès la première réorg. C'est-à-dire que dans le lot, il y a des gens qui ne tiennent pas. Soit ils se démerdent pour aller au chèque, dans un bureau, au guichet. Soit ils se mettent en longue maladie pour certains, soit pour celles et ceux qui ont de la ressource, ils réfléchissent à changer de boulot et c'est un phénomène qui s'est vachement accéléré au cours des 10 dernières années. Ils se démerdent pour faire une rupture conventionnelle et ils se trouvent un plan de départ pour faire autre chose de leur vie. Et tous les deux ans, on a ça. Et dernière chose, pour vous donner aussi une illustration, et je m'arrête là, pour ne pas faire trop long. Les nouveaux services qui sont une arnaque sans nom, parce que ça c'est un point qu'on n'a pas souligné, je crois que la Poste avait défini pour 2020 un calibrage à 200 millions d'euros pour l'ensemble des nouveaux services. La branche courrier-colis, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires. Donc entre l'un et l'autre, vous voyez le gap, le premier ne remplacera jamais le second. Mais outre que c'est une arnaque en termes de projection, de ça va remplacer le courrier, et c'est ça l'avenir postal en termes de chiffre d'affaires, la façon dont ça s'est mis en place est du même type de violence que celle que j'ai décrite avant et qui a été décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, dans les bureaux dans lesquels j'étais, et c'était en plein bureau, c'était comme ça, on envoyait à l'appel arriver des nouveaux services parce que chaque direction régionale avait le loisir de grappiller dans le panel de la centaine de nouveaux services que la direction nationale avait envisagé. Ça pouvait être veiller sur mes parents. Nous, on a eu des trucs à la con, du genre aller chez des gens pour leur faire un questionnaire parce que demain on avait passé un contrat avec je sais pas quelle boîte pour leur vendre des catalogues, leur fouler des catalogues pour qu'ils achètent des conneries. Voilà, deux choses qui peuvent être intéressantes, discutables sur leur sens social et puis des trucs complètement mercantiles, inutiles. Voilà. Chaque direction faisait son marché à l'intérieur de ce disponible. Et quand vous aviez, tous les matins, du coup, vous aviez votre chef d'équipe qui venait sur le secteur où vous étiez et disait, tiens, aujourd'hui, tu as une prestation, tu as ça. Tu as veillé sur mes parents, il y a quelqu'un qui vient de passer un contrat, ou tu vas distribuer les catalogues, ou tu vas faire ceci ou cela. Mais même le truc des 6 minutes ou des 18 minutes antérieures qui était calibré, peut-être pensé au niveau de la direction nationale, n'était pas appliqué en réalité. C'est-à-dire que votre tournée, telle qu'elle était définie à 6h30 avec les rues adjacentes rajoutées, on venait vous dire, aujourd'hui, tu as deux prestations veillées sur mes parents, plus quatre personnes à qui aller faire remplir un questionnaire, mais ça, c'était pas dans le temps de travail, en fait. C'était comme ça. Et les nouveaux services sont arrivés au démarrage, il a fallu attendre, bon, maintenant, je ne suis plus, donc il y a des doutes que j'ai manqué sûrement depuis 4 ans. Mais le peu que j'en ai entendu, le calibrage d'inclusion dans les tournées, dans les réorganisations des nouveaux services, a été très tardif et de façon assez hallucinante. Moi, la première réorganisation que j'ai eue où on avait les nouveaux services, comme on gueulait sur les temps qu'ils nous avaient calibrés, on nous a dit « bon, on rajoute 15 minutes pour tout le monde pour les nouveaux services ». Pareil, ça sortait de nulle part. Pour le coup, c'était même pas dans les vidéos de 1990, puisque ça n'existait pas comme phénomène. Je suis sûr que c'était dans aucun logiciel. Voilà, l'arbitraire le plus total. Mais ce qui est vraiment à retenir, c'est que je pense en tout cas qu'à chaque réorganisation, c'est une violence terrible pour les gens, Parce qu'en gros, on leur dit que tu n'es pas capable, en fait, d'une certaine façon. On te rend incapable de faire ton travail. Et la succession de ça, elle est assez, assez terrible et assez violente, et elle meurtrit réellement les gens. Désolé.
Non, merci beaucoup pour ce témoignage. Nicolas, tu veux...
Dans le même sens, alors, du coup, pour peut-être aussi expliciter le sous-entendu, en fait, le logiciel, il tourne deux fois quand il y a une réorganisation. Il tourne une première fois pour faire donc, le diagnostic. Le diagnostic, c'est-à-dire, on vous dit votre tournée actuelle avant d'être réorganisée, elle dure tant de temps. Et donc, la mienne, en l'occurrence, c'était 4h23, 59 secondes. Mais ça peut être autre chose. Donc, c'est présenté comme un diagnostic qui s'opposerait à la projection, qui est l'ordinateur qui tourne une deuxième fois en donnant la tournée future qui, elle, va durer 6h58 alors que vous devez faire 7h. Donc, c'est magnifique, ça rentre pile dedans, tout va bien. Donc, il y a deux termes, mais la logique est exactement la même. On fait tourner un modèle, il n'y a pas plus. Le fait qu'on fasse un diagnostic de la tournée actuelle ne veut pas dire qu'on va sur cette tournée pour voir, elle, c'est une tournée existante. On pourrait aller voir, effectivement, combien elle dure. Non, c'est la même logique, les deux sont fabriqués. Leur statut ontologique, en quelque sorte, est le même, ça tourne sur l'ordinateur. Et pour aller dans le sens de cette idée de violence quand on reçoit ce diagnostic, tu disais il me manque, un terme aussi qui s'entend beaucoup, c'est je dois ou tu dois. Et je pense que donc, s'il y a des anthropologues dans la salle, ils savent la puissance de cette notion de dette pour obliger qui que ce soit. En l'occurrence, voilà, ce langage de la dette est vraiment très très présent dans les centres de distribution du courrier. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est à travers ça qu'on obtient une espèce de mauvaise conscience quelque part. Enfin, elle est toujours un peu extorquée. Il n'y a pas beaucoup de facteurs qui croient à ces diagnostics et à la vérité des chiffres. Et en même temps, c'est toujours dur de s'en dépatouiller, y compris intellectuellement, y compris du point de vue de la mauvaise conscience que ça crée. Et je pense que du coup, une partie des gens, parce qu'effectivement, ce mouvement de départ, de turnover, on l'observe de plus en plus, partent à la fois à cause des conditions physiques, parce que ça devient intenable, parce que les facteurs vieillissent aussi, hein, du fait qu'on recrute de moins en moins, bah, le corps des facteurs en moyenne, il vieillit. Donc il y a des questions physiques assez basiques, mais je pense qu'il y a aussi ce sentiment d'être pris en défaut, de ne plus pouvoir bien faire son travail, ou pour certains, pour les cas les plus tristes, de gens qui intériorisent vraiment l'idée, et on en trouve aussi qui sont lents. Et donc ça, c'est très très dur à vivre, et ça contribue aussi à fabriquer du départ. Et avec cette idée vraiment de la dette, et d'une certaine manière, il y a une espèce de... Ta tournée, elle dure 4h23, 59 secondes, t'en as profité, on ne demande pas de payer ta dette du temps antérieur, mais par contre, là, on va être obligé quand même de combler, et à partir de maintenant, tu vas payer ton dû chaque jour.
Moi, j'étais merci pour la présentation, parce que je me suis reconnue dans le vécu que vous décrivez. Et j'ai aussi vécu une réorg, et ça m'a fait rire. Comme moi, je ne me projetais pas du tout dans ce métier, puisque j'allais pas y rester. Ça m'a fait marrer ce moment-là où les responsables des ressources humaines descendent pour parler aux salariés et leur expliquer comment ça allait se passer. Et donc, ils expliquent un peu des choses pas agréables à entendre. On va réduire les effectifs, mais ils vont enrober en se justifiant avec vraiment des tas de phrases bateau. Et là, ça m'a vraiment fait rire. Ils disent des choses comme « Oui, moi, j'ai besoin... mon rôle, c'est de répondre à des besoins avec des ressources. Hein, » voilà, ils enrobent leur discours comme ça, avec des phrases bateaux. On a l'impression qu'ils prennent les salariés pour des débiles. Ça veut rien dire, quoi, ce genre de phrases. Et du coup, j'avais noté... Oui, donc, mon image, moi aussi, à l'initiale, c'était... le métier, c'était une image... un peu poétique, le facteur est gentil, tout ça, et je retrouve le tableau que vous dressez de cet imaginaire qui est aussi un peu déconstruit, mais j'ai été aussi très surprise, parce que mon image poétique et un peu naïve de ce métier a été aussi renforcée. Enfin, là, par exemple, il y avait plein d'aspects du métier auxquels je ne m'attendais pas du tout. Par exemple, le facteur, il doit en permanence se trimballer dans la rue avec un carnet de timbre et des enveloppes que tu peux voir à tout instant et les vendre à n'importe qui que tu demanderais, comme une petite agence ambulance de la poste partout, alors que ça, personne n'est au courant et ça n'arrive jamais que le facteur vende et soit alphagué. Et oh, un timbre s'il vous plaît, ça, ça paraît hyper désuet comme service. Et donc j'ai l'impression que la poste, c'est... Alors, du coup, je me suis demandé pourquoi, dans la logique de rentabilité, ils n'enlevaient pas cette fonction-là du facteur. Et du coup, j'ai eu réponse en me disant que c'était aussi leur rôle d'être très symbolique, qu'il y avait vraiment énormément de symboles qui étaient véhiculés par ce service. Enfin, le facteur, il est toujours à vélo. Ça déjà, je me demande si on devait réinventer la poste aujourd'hui, si elle n'existait pas, est-ce que le facteur serait toujours à vélo? Enfin, donc, des questions comme ça que je me suis demandé. Ou alors, aussi, par exemple, des petits devoirs. Parfois, on a des courriers qui ne sont pas payés par les expéditeurs, et donc c'est les dessinateurs qui doivent les payer. Mmh. Et là, on peut recevoir l'argent en chèque ou en liquide, mais la plupart du temps, c'est en liquide. Et on doit rendre le change le lendemain, et donc, en centimes. Enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. Je me demande pourquoi on doit faire ça, et pourquoi on perd du temps. Alors que ça peut être supprimé, puisqu'il faut tout le temps supprimer des tâches et gagner du temps. Enfin, du coup, j'ai adoré faire rendre la monnaie en pièce de centimes, mais... C'est un décalage mentalité entre le fait qu'il faut rentabiliser tout à tout prix et à la fois toujours garder cette image très belle et enjolivée du facteur qui est symbole de...
Merci pour ce témoignage. En tout cas, je suis ravi. Merci aux ex-facteurs et factrices d'être venus, et à certains facteurs et factrices, parce que j'ai pédalé fort pendant 15 jours pour essayer de les suivre et de leur glisser un flyer et de discuter. Ça a été compliqué parce que parfois on m'a répondu, les facteurs qui m'ont répondu ou factrices m'ont dit bon, j'en parlerai au responsable syndical. Et comme je le disais à Nicolas, donc j'essayais de prendre le temps parce que son temps est minuté. J'avais lu l'ouvrage, donc je savais que je ne faisais pas partie des 6 minutes, qu'il fallait que je sois bref et extrêmement convaincant. Ça a très peu marché. Et certains m'ont dit j'en parlerai au délégué syndical. J'allais dire mais ça concerne aussi tout le monde et peut-être d'autant plus vous si vous êtes en CDD. Bon. J'ai pas eu le temps, il était déjà loin et je culpabilisais déjà d'avoir pris trop de temps parce que quand on a lu le bouquin, mais merci en tout cas d'être venu si tu veux réagir sur le...
J'ai pas entendu parler de c'est pas le bouche à oreille que vous
avez
suscité qui a marché.
On fait ce qu'on peut, hein. À l'université, on est cadencé aussi. Merci de me rappeler que j'ai été très mauvais. Mais en tout cas, vous êtes là quand même. Hein. Ne sous-estimez pas les anthropologues, des fois on a du réseau. Hein.
Alors, ça reste un univers quand même très réglementé, donc avec des choses qui peuvent paraître désuètes, mais qui ont des explications dans des règles postales, qui par ailleurs sont négociées à une échelle internationale, donc c'est pas toujours évident, même quand on le voudrait, de revenir dessus. De la même manière que, à mon avis, ça fait très longtemps que La Poste n'a plus envie de distribuer le courrier 6 jours sur 7, hein, mais il y a des obligations pour l'instant nationales, là elle est en train de commencer à rogner dessus, mais il y a des obligations nationales de distribuer le courrier 6 jours sur 7. Au demeurant, il y a peut-être c'était un peu mieux débattu et plus largement aussi bien avec les citoyens, parce que c'est aussi des questions de pollution à travers les courriers qui sont inutiles, les pubs qui sont extrêmement volumineuses, les déplacements que ça occasionne. Il y a peut-être matière à réfléchir effectivement à rendre La Poste un peu plus sobre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut par contre raboter à chaque fois demander plus de travail des facteurs. Il y aurait matière à réfléchir sur tout ça. Mais donc en l'occurrence, sur le fait de faire payer à l'expéditeur, je connais pas suffisamment la règle, ça m'est jamais arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que ça va justement, donc il y a des restes, mais ça va à l'encontre de la loi de 1848, qui justement crée le timbre de poste pour développer à l'époque les échanges épistolaires. Il y a une dimension très politique à l'époque. La Poste n'a pas tellement un rôle économique. Son rôle vraiment économique de participation à l'effort industriel de croissance de la France après la Seconde Guerre mondiale. On assigne à La Poste pendant tout le 19e siècle un rôle très politique. Tout d'abord, à l'époque, on n'a pas Internet. Donc, quand... point de vue logistique et militaire, enfin, c'est d'abord une administration militaire, on a besoin d'avoir des correspondances, c'est à ça que sert la poste, et après un rôle plus politique de construction d'une nation. Voilà, on a un État qui est en formation, qui se dit, qui se représente comme État-nation, il faut fabriquer une nation, pour fabriquer cette nation, il faut des échanges épistolaires qui soient facilités d'un bout à l'autre. Donc on institue d'une part la péréquation. C'est très tôt, hein, c'est des 19e siècle, le fait que le prix du timbre est le même partout. Vous employez d'une rue, de la rue de la Cavalerie à la rue à côté, ça va coûter le même prix que si vous envoyez à Paris ou ailleurs en France. Alors qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de l'envoyer ailleurs en France. Donc ça, c'est la péréquation. Et ensuite, le fait de dire que c'est l'émetteur qui paye, parce que comme ça, ça facilite l'acceptation de la réception par les destinataires. Sinon, je dois payer, ben non, merci, rembarque ta lettre. Là, comme ça, moi, oui, s'il n'y a rien à prendre, s'il n'y a rien à payer, je prends la lettre. Donc, c'était pour faciliter les échanges. Et d'une certaine manière, je démarrais par ça tout à l'heure, la Poste est prisonnière de ça aujourd'hui. C'est que contrairement à la box Internet, où on est tous désireux d'en avoir une et de payer pour le flux qui va avec, on n'a pas pris l'habitude de payer pour notre boîte aux lettres et le flux que ça permet de recevoir. Et c'est la source de la contradiction économique qui est derrière la Poste. Après, que ce soit sur cet aspect-là ou sur la question des timbres, que je trouve aussi... J'ai pas de réponse, que je trouve aussi interpellante. Quand vous regardez, par exemple, vous demandez à un directeur d'établissement son chiffre d'affaires, il va vous donner un chiffre d'affaires de 45 000 euros. Vous dites, bah, comment c'est pas... Enfin, c'est ridicule, 45 000 euros. Vous avez 200 facteurs, c'est quoi 45 000 euros? Parce qu'en fait, il compte pas dans le chiffre d'affaires l'essentiel du travail fait par les facteurs et les recettes que ça génère, parce que c'est compté à un autre niveau. Et dans les 45 000 euros, vous aurez les carnets de timbres que vous aurez vendus. Et c'est pas que anecdotique. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce n'est pas que anecdotique, puisque la Poste en fait régulièrement ce qu'elle appelle des challenges. Et donc, les facteurs pour obtenir certaines primes ou des fois, enfin, c'est dérisoire. Hein. Moi, la dernière fois où j'ai assisté à un challenge de ce type, si on vendait un nombre tout à fait hallucinant de timbres, je ne sais plus exactement, mais ça paraissait délirant à tous les facteurs, personne n'arrivait à atteindre ce score-là. Mais si jamais on arrivait à atteindre ce score-là, on gagnait un ballon de foot. Donc, même quand on est... Enfin, voilà. On a beau être payé 1200 balles, on n'a pas forcément envie de s'échiner pour gagner un ballon de foot. Mais il y a quand même une insistance sur le fait que c'est un objectif à atteindre de vendre beaucoup de timbres. Dans tous les cas, comme de toute façon ça n'est pas calibré dans votre tournée, les heures supplémentaires que ça occasionne, elles ne sont pas payées en tant que telles. Elles sont rémunérées de manière très indirecte à travers le tout petit commissionnement que vous pouvez avoir sur le carnet de timbre que vous avez vendu. Et donc, si vous voyez, il y a une grande dissipation de travail de facteurs. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Pour le dire autrement, de manière plus juridique, la Poste, c'est une énorme usine. Ça a longtemps été une énorme usine à travail dissimulé, parce qu'il y a des gens qui travaillent gratuitement, en tout cas sur une partie de leur journée. C'est pas payé. Alors, suivant les endroits, c'est moins vrai parce que l'inspection du travail arrive. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la Poste n'avait pas du tout envisagé. C'est-à-dire que quand vous aviez des fonctionnaires, je pense que les réformateurs de la Poste, ils pensaient fonctionnaires, rigidité, c'est affreux, il faut passer à du droit privé, tout ça va être beaucoup plus flexible. Sauf que la réglementation du temps de travail chez les fonctionnaires est beaucoup plus souple, en fait, que dans le droit du travail privé. Vous avez évidemment des horaires, vous êtes aux 35 heures quand vous êtes fonctionnaire, mais votre vie personnelle et vos horaires, à l'occasion, doivent s'effacer derrière la nécessité du service public dont vous êtes le garant. Quand vous êtes un contractuel de droit privé, d'un point de vue juridique, tout ce que vous devez, c'est votre force de travail pendant un temps déterminé. Et dès lors que vous dépassez ne serait-ce que d'un quart d'heure, ce quart d'heure doit être payé. Ça, je pense que ça n'avait pas du tout été envisagé par les réformateurs de la Poste, le fait que le droit du travail privé n'était pas toujours plus défavorable que le droit public qui met au travail les fonctionnaires. Y compris, par exemple, sur l'aspect des CHSCT que je mentionnais tout à l'heure. Si les CHSCT ont pu, d'une certaine manière, découvrir le poteau rose en aller au tribunal, c'est parce qu'ils ont acquis en 2011 des prérogatives du privé qu'ils n'avaient pas auparavant quand c'était du giron du public. Donc, voilà, je suis un peu parti loin depuis votre question, mais c'était ce que ça m'inspirait.
Merci. On a fixé une heure de début, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas concerté sur l'heure de fin, donc on peut encore poursuivre un peu.
Est-ce que la loi qui a fait émerger la notion de risques sociaux dans les collectivités et au sein des administrations n'a pas eu un effet justement sur la mise en évidence ces conditions de travail particulièrement difficiles. Parce que c'est une loi qui a fait qui a révolutionné beaucoup de choses dans les conditions de travail, les collectifs et les locales, par exemple.
Je n'ai pas entendu la loi. Quelle loi?
La loi sur les risques psychosociaux.
D'accord.
Je crois que ça a dû être voté entre 2014 et 2015.
On prend les deux en même temps. Hein.
Allez, oui, s'il y en a une.
Par rapport au terrorisme, du coup, une des critiques qui a beaucoup été faite, c'était la perte de la spécialisation de l'ouvrier, justement, avec la perte du savoir-faire, puisqu'on pouvait mettre n'importe qui pour actionner la machine, serrer le bouton pour arriver dans lui. Et est-ce que c'est une nostalgie un peu de ce savoir-faire de facteur ou factrice? Ça se retrouve dans les discours. C'est certains métiers comme ça où on dit avant, c'est pas comme ça se retrouve beaucoup dans le secteur médical, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve du coup dans le secteur de la plus?
Merci.
Alors sur le premier aspect, en 2014-2015, la Poste était déjà quasiment complètement sortie du giron du public, plus dépendante de ces réglementations-là, puisqu'il n'y a plus qu'une minorité de fonctionnaires déjà. C'est une société anonyme de droit privé. Alors certes, les actionnaires sont l'État, mais c'est une société anonyme de droit privé depuis 2010. Donc c'est une majorité de gens en CDI, secondairement en CDD ou intérim. Donc ils ne sont pas couverts par une loi sur les risques psychosociaux. Il est sûr, en revanche, que, mais ça, c'est pas propre à la Poste, la montée en gamme, on va dire, du thème de la souffrance au travail, puis des risques psychosociaux, donc avec une espèce d'officialisation, c'est pas un texte réglementaire, mais une espèce d'officialisation avec le rapport dit Golac de 2011, donc qui était un rapport à la demande du ministère du Travail, au départ uniquement pour améliorer l'appareil statistique de l'État, pour mesurer ces risques du coup qu'on appelait psychosociaux par analogie avec les risques physiques qui étaient mesurés jusque-là statistiquement. Ce rapport est devenu une espèce de bible pour plein de choses, hein, des bonnes et des mauvaises, pour aussi des officines qui vendent leur pseudo-expertise sur des risques psychosociaux. En tout cas, ce que j'y vois, si on regarde dans le code du travail, si on tape risques psychosociaux, on ne trouvera pas, ça n'existe pas. Ce n'est pas contrairement à harcèlement moral, par exemple, qui est aussi une invention un peu plus ancienne, mais une invention des années 2000. Risques psychosociaux, ça n'existe nulle part. En revanche, c'est maintenant reconnu comme étant des risques parmi d'autres et qui doivent être, du coup, qui sont justiciables d'une analyse et d'une évaluation comme les autres risques, par exemple dans le document unique d'évaluation des risques professionnels que chaque employeur doit tenir. Et moi, j'aurais beaucoup de critiques, comme plein de monde, je ne suis pas très original en ça, vis-à-vis de l'expression de risques psychosociaux, de ce que ça recouvre, de toutes les... tous les sens cachés ou vers lesquels ça peut tirer, ou tous les amalgames, toutes les confusions que ça peut générer. J'y vois donc intellectuellement, je trouve ça critiquable. J'y vois un gros intérêt tactique qui est que, disant que les risques psychosociaux sont des risques, en faisant cette analogie avec les risques physiques, analogie qui, à mon avis, intellectuellement un peu fallacieuse, mais en tout cas, l'intérêt tactique, c'est qu'on repose des questions relatives à l'organisation du travail. Dans les instances de représentation du personnel. C'était un moyen, un véhicule pour les CHSCT et maintenant pour les comités socio-économiques qui ont récupéré, entre autres, les prérogatives des CHSCT pour interpeller l'employeur sur un domaine qu'en France, il n'aime pas du tout discuter et que le droit ne permet pas de discuter. Le principe du droit du travail, la première chose qu'il dit, c'est qu'il y a un pouvoir de direction de l'employeur et il y a une subordination des salariés. Et ensuite, il y a un ensemble de limites qui sont fixées à ce principe général. Mais ce principe, c'est d'abord celui-là. Et donc, discuter de l'organisation du travail, c'est théoriquement pas permis. Le détour par les risques psychosociaux permet en fait d'interroger, alors au prix des fois d'une image un peu misérabiliste et victimaire des salariés, parce que c'est ce détour qui est un peu obligé, mais permet de reposer la question de comment on produit et comment l'organisation du travail pourrait ne pas être monopolisée par ceux qui sont appointés par les actionnaires, quoi. Donc, je pense que ça déborde largement le cadre de la Poste. Ça a été vrai à la Poste comme ailleurs. La montée du thème des risques psychosociaux a permis effectivement de davantage discuter de des questions d'organisation du travail. Et sur le taylorisme, alors, je pense que ce qui est propre au taylorisme, ce n'est pas tant la spécialisation, puisque, encore une fois, il y a un endroit où il dit... en général, quand on cherche à rationaliser le travail, on s'aperçoit qu'on peut diviser le travail entre différentes tâches. Mais ce n'est pas du tout son principal objet. Son objet, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une expropriation du savoir-faire de l'ouvrier de métier, au sens où le problème de Taylor, c'est qu'en particulier à Philadelphie, qui contrairement à Chicago, est un centre industriel ancien, avec des ouvriers de métier, des métiers qui se transmettent de génération en génération, le problème de Taylor, c'est que les ouvriers savent plein de trucs que les ingénieurs ne savent pas. Et donc, son objectif, c'est de récupérer tous les trucs que les ouvriers savent et cachent pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils se gardent par devers eux, ne serait-ce qu'en termes d'énergie, qu'on pourrait leur extorquer davantage, parce qu'ils ont des tours de main, en fait, qui permettent d'aller plus vite que ce qu'on imaginait. Donc, il faut deviner, comprendre ces tours de main. Donc, c'est leur extorquer tout ce qu'ils savent et leur réexpédier sous forme de prescriptions calibrées en termes de temps. Donc, c'est... La geste taylorienne, c'est vraiment celle-là. C'est pas tant la spécialisation qui est vraiment une préoccupation mineure pour lui que le fait de retirer toute maîtrise et toute appréciation aussi, toute intelligence des rythmes et des modes opératoires aux salariés. Et de ce point de vue-là, pour le coup, la poste, ce qui se passe à la poste avec les facteurs, c'est un petit peu en décalage. Parce qu'on leur retire toute maîtrise et toute intelligence des temps qui sont nécessaires à l'exécution de leur travail. Mais alors la poste se désintéresse complètement de ce que vous faites sur votre tournée. Fut un temps, peut-être jusqu'au temps où tu étais encore à la poste, si on ramenait du courrier, on se faisait taper sur les doigts. Parce que peu importe comment on fait, il faut se débarrasser de tout le courrier. Y compris en prenant des détours plus ou moins transgressifs. Il n'y a même plus vraiment ce ressort-là aujourd'hui. La Poste va dire, mais respectez vos heures, il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas de faire des heures supplémentaires, ramenez du courrier, de plus en plus dans les centres de distribution du courrier, et au grand désespoir des facteurs eux-mêmes qui ont l'impression qu'ils sont les derniers dépositaires, les derniers à faire vivre une espèce de conscience professionnelle autour de la distribution du courrier ordinaire. La Poste a des attentes sur les colis, sur les recommandés, mais vous ramenez du courrier une lettre des impôts ou quoi que ce soit à la fin de la journée, enfin, vous en ramenez même un gros paquet, il y a plein d'endroits où ça n'est plus un problème. Donc il y a une espèce de désintérêt de la manière dont c'est fait. On n'est pas en train de dire voilà la manière dont vous devez faire. On est en train de dire ça prend 3,33 centiminutes pour mettre une lettre dans une boîte aux lettres, mais on n'est pas en train de dire et pour faire ceci, il faut d'abord mettre le coude à l'angle de 47 degrés et puis le déployer comme ça. Non, la Poste s'en fiche complètement. Ce qui serait plutôt la perspective de Taylor. La perspective de Taylor, c'est vraiment de tout rationaliser et ensuite donc d'inculquer aux ouvriers les gestes qui permettraient de tenir la cadence. Mais pourquoi il y a cette différence de perspective? C'est parce qu'il reste, lui, dans le cadre d'entreprises industrielles où il essaye d'accélérer le rythme des ouvriers dans un temps donné, avec une certaine utilisation des équipements. Ce qui coûte en plus dans une industrie, c'est surtout les machines plus que les hommes. Donc, c'est d'optimiser. Et s'il n'arrive pas à faire travailler les ouvriers à la cadence qu'il a définie, au final, c'est quand même un coût pour l'entreprise. Si le facteur ne travaille pas à la cadence qu'a définie la Poste, la plupart du temps, et jusqu'à récemment, et sauf quand l'inspection du travail y met son nez, c'est le coût, il est pour le facteur. Il ne travaille pas autant que je mets 10 heures pour faire ma tournée au lieu des 7 heures prescrites par la Poste, et ben j'ai 3 heures pour ma pomme. J'ai ma vie personnelle qui est gênée, mais je n'ai pas ma rémunération qui est augmentée des 3 heures supplémentaires. Donc ça explique aussi ce désintérêt de la Poste pour comment les gestes sont effectivement faits, c'est parce que de toute façon, le reste à charge, il est pour les facteurs, il n'est pas pour l'entreprise.
Si je peux me permettre une dernière, parce que là, il faut qu'on s'arrête, mais bon, ça va quand même dans ce sens-là. Ça sera à la fois assez court, parce qu'en effet, j'ai été frappé quand je t'ai lu, quand on fait des enquêtes en sciences humaines et sociales, on a toujours le souci de ses interlocuteurs et surtout de ne pas leur nuire, quoi, à un moment donné. Et quand je lisais, parfois, comment on se débarrasse du courrier ou tout ce qui tourne autour des recommandés, ça m'a marqué, hein, maintenant, je sais. Et donc, il y a tous ces bricolages, ces adaptations secondaires, et quand tu dis, ils sont quelque part, la direction s'en fiche de toute manière et laisse tomber. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté quelque part de pourrissement qui va dans le sens de se débarrasser de ce courrier. Et vaille que vaille, à un moment donné, on laisse pourrir la situation. Soit ça retombe sur le facteur, ou alors il y aura une telle image qu'on va essayer de faire en sorte que ça privatise. Mais qui voudra de la distribution du courrier? Ça, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui en veut. Autant les colis et toutes ces choses-là. Et peut-être qu'il va dans le même sens. Et là, j'en terminerai. J'ai vraiment l'impression, enfin, c'est plus une impression maintenant, qu'il y a un gouffre énorme entre ceux qui pensent le travail des facteurs et ceux qui font véritablement les tournées, au sens de, il ne s'agit pas de renvoyer les intellectuels au champ, hein, on a vu ce que ça pouvait donner, mais ce décrochage entre le quantitatif et le qualitatif. Là, on est vraiment dans une pensée quantitative de la chose. Alors, c'est plus une réflexion, remarque, mais en tout cas, c'est vrai que sur ces questions de livrer finalement ces adaptations, finalement, quand je t'ai lu après, la direction s'en fiche, je me suis dit, bon, bah, ça bouclé, quoi.
C'est un peu ma question aussi, c'est est-ce que du coup, il n'y a pas une menace qui est ressentie aussi par les facteurs sur des logiques qui iraient vers de la robotisation, enfin, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est abordé? Est-ce que c'est ressenti, en tout cas, comme une potentielle menace, une disparition, en fait,
Chez les factrices et les facteurs que j'ai rencontrés, non. Il y a toujours l'idée d'une menace un peu latente vis-à-vis de qu'est-ce que la poste va nous inventer. Après, précisément ce que c'est. Mais je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, la direction de la poste a un peu toujours une longueur d'avance stratégique. Je pense que la prochaine étape, ça va être donc ça rejoint la robotisation, c'est la numérisation des recommandés. C'est-à-dire que c'est intéressant ce qui s'est joué, hein, parce que la Poste joue toujours un peu sur les deux tableaux, je suis public, je suis privé. Vous voyez ce que c'est France Connect, c'est l'identité numérique qui vous permet d'accéder simultanément à la Sécu, à vos impôts, etc. La Poste est une des clés pour France Connect. Elle a créé une identité numérique, donc vous pouvez avoir une identité numérique, la Poste, c'est un moyen minoritaire d'accéder à France Connect, mais un certain nombre de gens ont fait ce choix-là. Et c'est le seul opérateur privé, si on considère qu'il est privé, c'est une société anonyme de droit privé, qui a ce privilège. Et du coup, c'est le seul opérateur qui vous permet de naviguer avec la même identité numérique de sites publics à des sites marchands. Parce que par contre, la Sécu, les impôts, etc., ils vous font pas circuler. C'est juste, vous restez dans le champ des administrations. L'identité numérique de la Poste vous permet de circuler très facilement dans ces différents champs, en évitant d'avoir à se reconnecter, se réidentifier sur tous les différents sites. Donc, ils en attendent beaucoup. Et ils en attendent notamment la digitalisation des recommandés. Ce qui, à partir du moment où ça va se déployer, va considérablement diminuer le boulot pour les facteurs. Enfin, c'est quand même encore un très gros morceau. Ça représente, c'est dur à estimer, mais on peut se dire que ça représente 30-40% d'une tournée, les recommandés, quand on les fait sérieusement et qu'on n'avise pas tout d'office. Donc, il y a cette menace de robotisation là-dessus. Enfin, je pense que la digitalisation des recommandés est une menace de robotisation plus sérieuse que les reportages sur les drones distributeurs. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est une concurrence plus immédiate et plus réelle, quoi. Pour autant, donc, je dis, ils ont une longueur d'avance sur les facteurs. Moi, je ne suis pas tellement dans leur tête, hein, et ça va être encore plus dur maintenant d'y être. Enfin, de pouvoir discuter avec Philippe Val, par exemple, le PDG de La Poste. Je pense qu'il n'y a pas que du machiavélisme. Il y a une contradiction énorme. Il n'est pas logique de continuer à gagner de l'argent en distribuant du courrier aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas privatisé la Poste, on n'y arrive pas. Je pense que c'était dans les plans, c'était comme France Télécom. Hein. France Télécom, l'essentiel du capital n'est plus à l'État. La Poste, je ne pense pas que c'était par souci de le garder, c'est parce que ça n'intéressait pas suffisamment. Et c'est pas logique, vu la baisse du courrier, vu que c'est de ça dont dépendent les recettes, qu'on continue à gagner de l'argent au courrier. Donc la Poste essaye malgré tout d'en gagner, donc au prix qu'on a évoqué. Mais il y a cette contradiction qui les fait courir en permanence après, parce qu'il n'y a pas d'autre stratégie malgré tout que d'essayer de vaincre, mais ils n'y arriveront pas, cette contradiction. Donc L'enjeu, c'est de se le réapproprier aussi collectivement comme un service public, de peut-être réfléchir à ses limites. On n'a pas peut-être, effectivement, à l'heure d'Internet, on n'a pas forcément besoin d'une distribution 6 jours sur 7, peut-être. On n'a pas forcément besoin aussi de tout ce qu'on a dans notre boîte aux lettres. Donc, il y a des choses à réfléchir. Mais eux, ils ont à la fois l'ambition de développer l'activité. Donc, par exemple, plus il y a pubs moches et qui ne servent à rien en quadricomie, plus ils seront contents, tout en faisant travailler au maximum les facteurs. Donc, je pense que c'est une course un peu mortifère après cette contradiction et pas seulement un machiavélisme avec des stratégies à 20 ans. Et sur la déconnexion entre le qualitatif et quantitatif ou le terrain et le machin, ce que j'essaye un peu de dire dans le bouquin à la fin, c'est que je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais il pourrait presque se satisfaire de ça en disant bon bah voilà, il y a une espèce de témoignage, mais nous on est quand même les gardiens de la rationalité froide. Non, leur truc, enfin moi ce que j'essaye de dire et de démontrer, c'est leur truc est parfaitement irrationnel. Leur truc ne répond pas à des canons d'une rationalité, sans même parler de rationalité scientifique. C'est une opération de pouvoir qui essaye de se donner les apparences d'une opération de savoir et qui échoue complètement dès lors qu'on gratte ne serait-ce qu'un tout petit peu les atours dont ça tente de se parer. Donc c'est pour ça aussi que voilà, toute la partie, je disais, il y a plusieurs récits, toute la partie où je raconte le quotidien d'un centre de distribution du courrier, bah, je pense que la plupart des factrices et des facteurs peut-être s'y reconnaîtront, enfin je l'espère, mais n'apprendront pas grand-chose. Mais il y a aussi l'autre partie du livre, et sans laquelle ça ne m'aurait pas intéressé d'écrire, c'est de dire aux facteurs, regardez comment ils ont fait. Et en fait, c'est vraiment de la foutaise, pour le dire très vite, pour contribuer à une espèce de désinhibition, parce que, encore une fois, personne n'y croit vraiment. Mais c'est un effet extrêmement démobilisateur, cette idée de « tu dois tant de temps au moment où on reçoit le diagnostic ».
C'est un vernis. Hein. Bon, merci beaucoup Nicolas, en tout cas, pour cette présentation et ces échanges.
Merci à vous.
Un plaisir. Et merci à vous d'être venu.